Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Ça va bien. Écoute, on regarde aller l'intelligence artificielle, on regarde aller les compressions au gouvernement. Ça a commencé à couper au gouvernement du Québec, là, et là, ça ne fait pas l'affaire des syndicats, évidemment. On s'en va au fédéral. Bientôt, Poste Canada nous dit, écoute, le métier de postier est menacé. Ça en était un métier qui était très physique aussi. L'intelligence artificielle des prochaines années pour les gouvernements, ça peut être quelque chose à regarder, j'imagine?
Ben, on regarde souvent ça comme étant une possible innovation qui peut emmener un peu plus, qui peut emmener en fait évidemment des gains d'efficience et d'efficacité au gouvernement. Par contre, ça fait des années qu'on nous martèle ça, que c'est que essentiellement la transition vers le digital, vers le numérique, va finir par assouplir et rendre la bureaucratie beaucoup moins lourde, tant au niveau du coût qu'au niveau des processus. Sauf que finalement, ça s'est jamais vraiment concrétisé. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut emmener, c'est évidemment le Québec avec ses 180 projets informatiques. Finalement, la taille de la fonction publique a quand même explosé au cours des dernières années. Au fédéral, on a eu quand même plusieurs projets informatiques à droite et à gauche qui ont pas nécessairement allégé la chose. Donc oui, il faut quand même miser là-dessus, il faut quand même continuer à mettre ça de l'avant, mais d'un autre côté, trop souvent, ça nous a été fait miroiter comme étant une solution par des gouvernements qui allégeaient pas non plus la bureaucratie en contrepartie. Donc, c'est sûr que si on mise sur l'intelligence artificielle pour faire tout ça, ben, il va falloir quand même avoir une politique là, qui est conséquente en termes d'embauche puis de croissance des effectifs dans la fonction publique.
Oui, parce que au gouvernement, tu as quand même des syndicats et les autres, ils n'ont pas intérêt là, à aller vite là-dedans, là.
Exact. Ben déjà, les syndicats, dans tous les cas, ils n'ont pas même intérêt à ce que le gouvernement fasse quoi que ce soit pour améliorer la machine. S'il n'y a pas plus grand défenseur là, du statu quo que les syndicats présentement, tant à Ottawa qu'à Québec, on le voit très bien. Dès qu'on parle de ne serait-ce que de réduire, ne serait-ce que d'un peu les effectifs qui ont été ajoutés là, au cours des dernières années, il faut rappeler qu'au fédéral, c'est pas loin de 100 000 fonctionnaires qu'on a ajoutés au cours des 10 dernières années. Au Québec, dans la fonction publique, juste dans les ministères, c'est pas loin de 12 000. Quand on prend l'ensemble des secteurs, c'est pas loin de 116 000 postes qui ont été créés depuis que François Legault est arrivé au pouvoir. Donc, de part et d'autre, il y a quand même tout un ménage qui est à faire. Puis malheureusement, les syndicats vont s'opposer à ce qu'il y ait la moindre modification possible aux différentes structures parce qu'ils savent très bien que c'est à partir du moment qu'on commence à alléger la bureaucratie, qu'on commence à changer les processus ou à couper des programmes pur et simplement parce qu'on n'a plus de besoin, parce qu'on peut faire tout mieux et de manière un peu plus centralisée, ben automatiquement, il va y avoir des postes qui vont être coupés, puis ça, ben ils vont se battre bec et ongle pour empêcher que ça arrive.
Oui, dans le secteur privé, en fin de semaine, c'est le boss de Walmart, lui dit, le tsunami s'en vient, là. Lui, il dit, moi, chez Walmart, là, je vous annonce que l'intelligence artificielle, on va l'utiliser, puis ça va nous amener des économies importantes. Là, je te parle du plus gros détaillant au monde, là. Mais eux autres sont capables de gérer leurs affaires, on va leur laisser gérer ça, mais le gouvernement... Avec des élus qui veulent se faire élire aux 4 ans, je suis pas sûr. On a commencé à annoncer des compressions aussi au gouvernement du Québec, là.
Oui, exact. Puis celles au niveau du gouvernement du Québec sont très bien reçues. On espère que ça va aller de l'avant. En fait, j'espère que France-Hélène Duranceau, elle a les reines, qu'elle est faite solide, là, parce qu'elle va devoir se battre contre à peu près tous les gardiens du statu quo, à commencer par les syndicats. On parlait jusqu'à tout récemment de couper d'environ 2000 postes là, dans la fonction publique d'ici les prochaines élections. Là, on est rendu à parler de pas loin de 6000 postes au cours des trois prochaines années. Donc, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où est-ce qu'enfin la CAQ réalise leur gâchis puis commence à essayer de faire le ménage. Un peu trop tard, diront certains, mais il en reste que ce ménage qui est nécessaire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que à peu près toutes les autres partis politiques à l'Assemblée nationale se sont un peu mis, ils sont un peu peinturés dans un coin parce que le Parti québécois a parlé de réduire la bureaucratie ou du moins de s'attaquer à la bureaucratie d'une quelconque manière, surtout par rapport aux fonctionnaires dans les ministères. Vous avez le Parti libéral du Québec, François Beauchemin, il a sorti la semaine dernière en disant que les fameuses coupures, là, les 136 postes, au ministère de l'Environnement qui ont été coupés récemment, ça représente même pas 10% des nouvelles embauches depuis 2020 dans ce ministère-là précisément. Donc même les libéraux semblent dire que c'est pas assez les coupures que Legault fait en ce moment. Et vous avez aussi le Parti conservateur du Québec à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui maintient quand même beaucoup ce discours-là. Il y a vraiment juste un parti présentement à l'Assemblée qui va défendre la fonction publique, puis c'est pas mal Québec solidaire. Du moins, c'est pas mal les seuls qui n'ont pas pris le temps de s'exprimer sur la croissance de la fonction publique et son impact sur les finances publiques, au final, qu'il faut rappeler, sont extrêmement déficitaires, puis ça semble pas vouloir nécessairement s'améliorer à moyen long terme, ou du moins, je pense pas que ça va s'améliorer, même ne serait-ce que d'ici le prochain budget. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour une rare fois, on commence à voir que tous les partis s'intéressent à la question de la croissance de la fonction publique. Maintenant, est-ce qu'ils vont être assez cohérents avec leurs opinions à ce sujet en tant que parti à l'opposition pour maintenir le cap si jamais ils sont élus au cours des prochaines élections? Ça, c'est une grosse question parce qu'il faut se dire, si la CAQ se met à faire le ménage présentement, qu'on a un changement de gouvernement, puis ceux qui sont élus promettent de faire l'inverse, on aura fait sur place pour absolument rien, ou du moins, ça va être assez chaotique dans la fonction publique par la suite.
Ouais, moi, j'ai entendu PSPP, là, le boss, le chef du PQ, Parti québécois, dire il va falloir couper dans la fonction publique. Là. Il dit on va y aller avec la santé, l'éducation, mais il dit pour le reste, tout est sur la table. Ça, c'est rare que je voyais ça. Là. J'ai dit tabarouette, il me semble qu'il va fort. Mais non, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une conscientisation de plus en plus sur les dépenses publiques et les déficits qui viennent avec. Là, on est sur un nerf d'aller d'à peu près quoi, 12-13 milliards cette année, là.
Exact. Puis en fait, la tâche est particulièrement colossale, surtout pour le gouvernement François Legault, parce que disons qu'au niveau de la gestion des finances publiques, ils ont quand même perdu pas mal de crédibilité au cours des dernières années. Les déficits records, la décote, le fait que le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire ne tient pas du tout la route là, d'ici 2030. Le coût des intérêts sur la dette qui va quand même constamment augmenter. Là, cette année, la dette, ça nous coûte quand même pas loin de 9,7 milliards. D'ici la fin de la décennie, les intérêts sur la dette uniquement au Québec, c'est quand même 12 milliards de dollars par année que ça va coûter aux contribuables. Donc, ça, c'est quand même pas mal l'héritage de la CAQ avec, ouais. Dû au fait qu'ils ont quand même drastiquement augmenté la dette du Québec au cours des dernières années. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent démontrer qu'ils ont ça à cœur. Et ils ont compris aussi que la meilleure et peut-être la seule bonne manière de vraiment ramener l'équilibre dans les finances publiques, c'est de ramener l'équilibre dans la fonction publique. Donc, les deux vont de pair. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a vraiment une conscientisation par rapport à ça. On va espérer que ça tienne, puis on va espérer aussi que la CAQ finisse par livrer la marchandise, parce que, il faut le dire, on est à peine un an des élections provinciales.
Ça va être tough,
donc,
ouais.
Le temps tourne.
Oui, exact. Hey, Post-Canada, on a eu aussi, là, il y a quelqu'un qui dit, on perd 10 millions par jour. Là, le fédéral a pogné les nerfs, il dit, on va faire un ménage là. Il était temps.
Ben oui, il était temps, mais on est quasiment 10 ans en retard. C'est drôle parce que je regardais des archives en fin de semaine, puis je suis tombé sur une vieille photo de Denis Coderre quand il était maire de la ville de Montréal, puis il a sorti une drille pour aller détruire des dalles de béton parce qu'il s'opposait à ce que Post-Canada se mette à mettre des boîtes postales communautaires pour éventuellement mettre fin à la livraison du courrier à domicile. Puis c'est en 2015, finalement, les libéraux, à l'époque, faisaient campagne contre Stephen Harper en disant « Nous, on va protéger la livraison du courrier à domicile. » Ce qu'il avait oublié de mentionner, c'est que ça impliquait à ce qu'on maintienne le statu quo avec un service de postal qui est extrêmement déficitaire. Présentement, en termes de déficit cumulé, on parle de pas loin de 5 milliards de dollars qu'a coûté Post-Canada aux contribuables canadiens, de par le fait qu'ils ont la difficulté à être en mesure de balancer leur livre puis d'être efficace puis surtout de d'être rentable. Il y a des gros changements qui s'en viennent, puis je pense qu'effectivement Post-Canada n'aura pas le choix d'éventuellement d'être soit privatisé complètement ou en partie, ou sinon qu'il y aura une restructuration complète de ses offres de services. Mais c'est sûr et certain qu'on a manqué le bateau là-dessus, on est 10 ans en retard, et c'est en bonne partie à cause autant du gouvernement de Justin Trudeau et de Carney. Carney, lui, c'est celui qui hérite de ça, mais on a quand même beaucoup de politiciens au municipal et au provincial qui ont fait pression contre ça, puis ils sont un peu responsables de la situation dans laquelle on est présentement. Là.
Mais là, on est en grève, là.
Oui.
Ton entreprise perd 10 millions par jour, puis toi, ta seule réaction, c'est de dire on fait la grève générale.
Exact. Mais
c'est particulier, là. C'est dans le privé, ça arrive pas, là. Je veux dire, une entreprise qui perd 10 millions par jour, il n'a plus d'entreprise.
Exact. Dans le monde normal, une entreprise privée qui perd de l'argent de même, ça fait pas long feu. Les actionnaires se retirent, puis l'entreprise tombe éventuellement là, en liquidation. Mais dans ce cas-ci, c'est ce qui devrait arriver avec Post-Canada, essentiellement. C'est que ça devrait être carrément revu. On a vu qu'il y a plusieurs pays, notamment l'Allemagne ou l'Angleterre, où est-ce qu'il y a eu une privatisation qui s'est faite progressivement des services postaux, puis ça a permis des économies de coûts, puis ça a permis aussi d'avoir des meilleurs services aussi de livraison. Oui, il y a parfois ça a amené des solutions intéressantes. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on parle de changer des services. On n'a pas vraiment de la part du gouvernement de Mark Carney des indications claires par rapport à c'est quoi la stratégie, c'est quoi le futur de Post-Canada. Donc là, on a un énième conflit de travailleurs à gérer. C'est pas comme la première fois que Post-Canada tombe en grève dans les dernières années. C'est, je pense, la 3e ou 4e fois. Et encore une fois, c'est vous et moi Et les entreprises canadiennes, faut le rappeler, d'un bout à l'autre, là, il y a des entreprises qui sont heurtées par cette grève-là.
Ben oui,
il y a des travailleurs, il y a des gens qui attendent leur chèque de pension. Il y a un paquet de personnes qui sont vraiment affectées. Et ben malheureusement, ben c'est les syndicats qui nous tiennent en otage encore une fois.
Ouais, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup. Là, vous travaillez sur quoi? Je sais que vous êtes il y a toujours des dossiers là qui vont popper à un moment donné là.
Oui, ben on a plusieurs dossiers d'ailleurs au fédéral. On a le fameux budget qui s'en vient le 4 novembre prochain. Donc ça, c'est pas mal notre grosse priorité. Sinon, au Québec, on a le fameux recul là, de l'interdiction sur les voitures à essence là, qui a été annoncé le vendredi dernier, qui est un recul, mais qui n'est pas un abandon complet de la politique. Parce qu'il faut rappeler que avoir des cibles qui passent de 100% à 90%, c'est pas tout à fait un recul comme tel, donc on va continuer à marteler le message là-dessus. Il y a la taxe carbone au Québec, on a une campagne qui continue là-dessus également. Donc on a plusieurs gros dossiers qui s'en viennent là, cet automne pour s'assurer de garder la pression sur le gouvernement de François Legault.
Le budget fédéral là, qui va être déposé, là, ça va être assez hallucinant. Là. On va avoir quoi? C'est le 4 novembre, ça? Ça va être dans un mois. Quoi penser d'aller aussi loin dans l'année financière? C'est-tu parce qu'on veut nous cacher quelque chose ou on va se rendre à l'évidence qu'on pourrait être décoté aussi?
Ben, je m'attends à une décote. Honnêtement, j'espère que je vais me tromper sur toute la ligne et qu'au final, on va se faire présenter un budget qui a un peu plus de l'allure, mais toutes les voyants sont au rouge à Ottawa présentement. On pourrait croire qu'ils ont attendu vraiment la dernière minute pour déposer ça, pour éviter de devoir aussi présenter une mise à jour économique. Mais non, parce qu'au final, généralement, le gouvernement, il va déposer son budget en mars, puis après ça, il présente une mise à jour économique en novembre ou en début décembre pour qu'on puisse se mettre à jour par rapport à la situation des finances publiques. Finalement, on va complètement sauter cette étape-là. Fait que je me demande, c'est quand est-ce que le prochain budget va être déposé. Mais il n'en reste que oui, on essaie un peu de garder le tout vers la fin. On a essayé le plus possible de calmer les ardeurs de certaines industries, mais à la fin, j'ai comme l'impression qu'on garde on essaie d'être le plus discret possible avant de dévoiler un paquet de mauvaises nouvelles. Puis moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on nous laisse aussi entendre que le budget va être divisé en deux. Il va y avoir un budget des investissements et un budget des opérations. Puis ils vont comme camoufler les déficits dans l'un des deux budgets. Donc, ils vont rendre la lecture encore plus complexe que c'était déjà le cas pour le budget fédéral. Puis ils vont essayer en plus de nous emporter quelques petites vides. Donc, on va être encore plus à l'affût que d'habitude. Mais je vous assure que je vais être au huis clos budgétaire le 4 novembre prochain pour aller voir ça avec mes collègues. Puis on espère avoir le moins de mauvaises surprises que possible. Mais pour l'instant, le déficit de 100 milliards, on semble effectivement s'en aller dans cette direction-là. Puis ça, ben, on a toutes les raisons d'avoir peur de ça. Là.
Nicolas Gagnon, tu es salué. Merci beaucoup. Salut.
C'est un plaisir. Merci à vous.
Bye-bye. Ouais, pour en avoir fait pas mal des budgets au fédéral en huis clos, là, c'est que tu arrives là le matin à 8h, puis là, ben, ils te donnent les documents, puis là, tu cherches les crosses. Et ils vont en avoir de la crosse. C'est sûr, là.
Ben, hâte de voir ça.
Ben là, ils disent qu'il va y avoir deux budgets, tu sais, un de dépenses, puis un investissement. Voyons, à la fin de la journée, ou à la fin de l'année, ou à la fin du... C'est des pertes ou des revenus, là. C'est ça, là. Ils vont essayer de nous bourrer.
Ben, hâte de voir ça.
Ils sont bons pour bourrer le
monde. Ils sont bons.
Hein, ils sont bons.
Ben oui.
Après la pause... Karim El Ayoubi, médecin, débarque dans le show.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.